dimanche, RVE, il est 9h.
Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver, il est bien 9h, hein. Nous sommes bien revenus à l'heure d'hiver, on va ce matin avoir une émission Tribune Sport de 2h, hein, avant le retour de Tribune Foot dès la semaine prochaine. On parlera cyclisme, hein, avec notre invité déjà ici présent dans ce studio, Michel Martin, présent donc du comité départemental. On saura tout sur le prochain Tour de France 2008 en compagnie d'Olivier Fernandez. On reviendra un peu sur le ballon ovale et sur le rugby à travers un match qu'on a suivi hier, hein, Stade Français contre Clermont-Ferrand. On est allé un peu s'intéresser à l'après-mondial à travers quelques petits témoignages qu'on a eu en direct dans l'émission de Sullivan. On vous donc rediffusera tout ça au cours de cette matinée. Et puis on découvrira aussi un tout nouveau sport dont on n'avait jamais encore parlé sur l'antenne d'Hervieux, le waterpolo. Il y a une importante section waterpolo sur Saint-Quentin en Yvelines. Donc on aura le cercle nautique des nageurs de Saint-Quentin qui viendra nous parler de ce sport olympique. Justement, qui dit sport olympique dit cyclisme. Qui dit cyclisme dans les Yvelines, dit Michel Martin. Michel Martin, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour aux auditeurs.
Ouais, heureux de vous retrouver donc pour nous faire un petit peu le bilan d'une saison qui a été un peu difficile pour votre sport.
Difficile, on ne peut pas dire moins. Mmh. Très difficile, je crois que justement la dernière présentation du Tour de France l'a bien précisé. Et justement, nous les amateurs, nous en avons des conséquences.
Très bien. Alors, Michel, ça fait combien de temps dans le domaine du vélo? C'est un sport donc connu très jeune. Allez, j'allais dire vacciné avec un rayon de bicyclette, c'est ça? C'est ce qu'on dit?
Non, peut-être pas trop,
non,
justement.
Non, ça fait
partie, justement, des dirigeants qui n'ont pas pratiqué beaucoup, j'ai bien beaucoup, parce que j'étais un honnête quatrième catégorie, même cinquième, j'ai jamais été au-delà. Mmh. Mais je pense que c'est l'organisation des courses, et il se trouve que mon fils également est un adepte, lui assidu, qui a commencé comme minime. C'est lui qui m'a justement mis dans le cyclisme.
D'accord, et puis vous êtes naturellement parfaitement omnisport parce que vous êtes aussi membre du comité départemental olympique et sportif des Yvelines, hein, avec qui on travaille très étroitement, hein. Donc vous êtes aussi parfaitement omnisport, Michel.
Avec notre président Jean-Louis Leplat.
Oui, qui lui aussi est omnisport.
Il est omnisport.
Voilà, allez, la pause musicale, la pub, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, on va tirer un petit peu le bilan de cette année cycliste 2007. Voilà, alors Michel Martin, si je comprends bien, il est difficile d'être président du comité départemental, hein, en 2007 concernant le vélo, c'est pas une tâche facile.
Il se trouve qu'effectivement nous avons les retombées de tout ce que les professionnels font et ne font pas justement sur le Tour de France. Donc les soucis, c'est que lorsque des jeunes puissent s'entraîner sur la route, eh bien les automobilistes les traitent de dopés, etc. Donc je vous dis pas que pour la relève, aujourd'hui, c'est très très difficile.
Oui, on a le sentiment que, entre guillemets, c'est beaucoup d'anciens aujourd'hui qui continuent ce sport, qu'il y a beaucoup moins de jeunes. Et Éric Boyer, qu'on a eu au téléphone il y a 15 jours sur le Paris Tour cycliste, nous disait qu'aujourd'hui, être champion cycliste, ça faisait plus rêver.
Non, je crois qu'il suffit maintenant d'être passionné, et je crois qu'il n'y a que les passionnés. On a des jeunes parce que ce sont des enfants ou des petits-enfants d'anciens coureurs, c'est vrai, tu l'as dit, mais élargir le cercle des nouveaux adhérents, des nouveaux licenciés aujourd'hui, devient une tâche pratiquement insurmontable.
Il y a combien de licenciés dans les Yvelines?
Nous avons perdu en 2007 plus de 100 licenciés.
100 licenciés, ouais, c'est
100 licenciés, 3 clubs complètement qui ne s'est pas réaffilié.
Trois
clubs. Ce n'est pas simplement tous les problèmes justement avec la population, avec les professionnels, c'est surtout aussi les problèmes avec la fédération.
Oui, on va donc en reparler parce qu'apparemment il y a des très gros problèmes. Pourtant le vélo est un sport encore très pratiqué en France. On pratique ce vélo, on pratique beaucoup le vélo sous forme de loisirs. On voit tous les dimanches matin des cyclistes qui partent faire un peu de vélo, quoi.
Mais je crois que tout à fait.
C'est un paradoxe quand même, hein.
C'est un paradoxe. il y a pratiquement 5 millions de non-licenciés, avec notre fédération, pratiquement, on s'étiole d'année en année, et je ne sais même pas si on va arriver à 100 000 à la fin de l'année 2007.
Alors, il y a quand même des dérivés aussi du vélo, comme le VTT, ou comme des épreuves comme ça d'endurance, qui ont apporté une nouvelle clientèle, quand même une autre façon de voir votre sport.
Alors, le VTT, effectivement, a été une bulle d'air, un ballon d'oxygène il y a quelques années. Il se trouve que depuis que le VTT existe, eh bien, un certain nombre d'entre eux s'en vont faire à travers les forêts des balades. Il se trouve que l'ONF a mis le holà dans tout cela, si bien qu'on ne peut plus maintenant rentrer dans aucune forêt ou dans très peu de forêts pour pouvoir faire du VTT.
Ah d'accord, donc ça, effectivement ça pose...
C'est vrai qu'il y a, il y a une spécialité en pleine évolution, c'est le BMX.
Oui.
Mais le BMX également revient très très cher aux communes où il y a des pistes, hein, parce qu'une piste de BMX coûte très très cher à entretenir, etc. Mais nous avons 5 clubs dans les Yvelines de BMX qui sont de niveau tout à fait honorable, que ce soit au niveau national et international.
Et est-ce que vous ne souffrez pas aussi de la concurrence de certaines épreuves dites cyclotouristes, qui sont aujourd'hui des cyclosportives, hein, comme les épreuves faites jadis par, pour la Jacques-Anquille ou la Bernard-Hinault, ou même le Paris-Brest cycliste, où on voit aujourd'hui de plus en plus de cyclosportifs s'élancer dans des épreuves qui étaient au départ des épreuves cyclotouristes, quoi.
Je ne sais pas si c'est une concurrence, mais je crois qu'il faut, il faut donner le niveau à chacun. Si un certain nombre de cyclistes trouvent leur bonheur dans ces courses-là, tant mieux. Et je crois que plus il y en aura, effectivement, et plus il y aura de cyclistes, même s'ils ne se sont pas à la Fédération française du cyclisme.
Alors aujourd'hui à la Fédération française, Michel, il y a combien de licenciés en tout, au total grosso modo?
Moins de 100 000.
100 000.
Moins de 100 000. Nous avions, il y a encore 3-4 ans, 105, 106 000, 110 000. Je ne parle pas des années 50-60 où nous étions pratiquement 200 000.
Ouais, c'était un des sports rois, le vélo, à cette époque.
Hein. Bien sûr, bien sûr.
Ouais. Donc naturellement, beaucoup moins de jeunes. Essentiellement, peut-être pas que ça, mais dû aussi à l'image que dégage le vélo concernant le dopage.
Et je crois que là, nous touchons vraiment un très gros problème. Nous n'avons pas la relève. Dans les Yvelines, nous avons 3 écoles de cyclisme sur 30 clubs, ce qui est tout à fait insuffisant.
Et les parents d'ailleurs vous posent des questions, sont assez sceptiques.
Bien sûr. Dans tous les forums, tous les clubs cyclistes sont dans leur commune, ils participent au forum et beaucoup de parents viennent. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans le club? Alors il y a le fait d'acheter un vélo, le matériel.
On va en reparler aussi.
Et ensuite, quand il faut vraiment faire des courses, eh bien il faut parfois aller à 50, 60 km. Ce sont les parents eux-mêmes. Alors avec tout le prix du pétrole, les déplacements, ça revient très cher, c'est vrai.
Il y a combien de clubs recensés en tout dans l'Île-de-France?
Dans l'Île-de-France, là tu me poses une colle, je crois qu'ils sont dans les 200 à peu près, nous en avons 30 dans les Yvelines.
D'accord, et vous travaillez en partenariat avec les autres comités départementaux, dans l'Essonne, dans le Val d'Oise, sur les départements donc limitrophes?
Pas trop.
Vous avez des actions communes ou alors c'est vraiment deux mondes à part, quoi?
Ah oui, je crois fou, que chacun est tout à fait autonome, chacun regarde l'autre au-dessus des lunettes ou sur le côté, ce qui est complètement aberrant, parce que si nous étions tous ensemble, nous serions beaucoup plus forts face à toute la partie administrative qu'on nous demande.
Oui, parce que, bon, on l'a dit, il y a des énormes problèmes avec la fédération. Alors, quels sont ces problèmes que vous rencontrez avec des gens qui apparemment sont complètement décalés, vivent sur notre planète, hein?
Nous avons, c'est vrai, un vieillissement, je ne veux pas dire autre chose, de nos dirigeants. Je crois qu'à 77 ans, comment on peut voir la relève du cyclisme lorsqu'on est dans une bulle? Je parle simplement du comité régional, où là, ils ont été élus pour aider un certain nombre de cyclistes, de pratiquants, et je crois qu'ils sont dans leur bureau à Paris, à Montreuil, et puis je crois qu'ils ont décidé quelque chose, même si c'est à l'encontre des pratiquants, des cyclistes, des licenciés, que ce soit yvelinois, que ce soit de Val d'Oise, que ce soit de l'Essonne, hein. Nous sommes tous à la même enseigne.
C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas sur les courses, ils ne viennent pas sur le terrain, ils...
Je crois que ça ne les intéresse pas. Ils sont dans leur bureau pour faire des statistiques. Ils nous envoient, moi j'ai reçu une lettre en début d'année en me demandant comment ça se fait qu'il y avait un certain nombre de licenciés en moins, lorsque je leur disais quand même qu'ils n'avaient qu'à appliquer au moins déjà la réglementation fédérale, et que la fédération aujourd'hui laisse toute latitude à chaque comité régional. Ça veut dire que la réglementation réglementation. Une réglementation dans l'Île-de-France n'est pas la même que dans le Loiret, n'est pas la même dans la Bretagne.
C'est-à-dire
c'est complètement aberrant.
Qu'est-ce qui diffère comme réglementation? Qu'est-ce qui change?
Par exemple, lorsque nous avons organisé Paris Annette, eh bien, il y a des clubs des Yvelines. Des Yvelines, ils ne pouvaient pas engager un certain nombre de coureurs, alors que dans l'Orléanais, ils pouvaient.
Mais c'est quoi? C'est les frais d'inscription? C'est les modalités qui...
Non, des réglementations, carrément, des réglementations.
D'accord.
Ils ont décidé que certains coureurs n'avaient pas droit de courir telle course.
D'accord. Alors, il y a aussi un problème énorme, c'est les droits d'engagement, parce que je crois qu'à la Fédération Française de Cyclisme, on paye ses engagements. C'est quand même assez incroyable.
On paye une licence, une cotisation,
et en plus, on paye pour courir, quoi.
Si on veut parler gros sous, effectivement, c'est carrément... il faut avoir... Pour déjà organiser une petite course, il faut 1500 euros. 1500 euros, c'est 10 000 francs, quand même, pour ceux qui comptent encore en francs. Le Tour des Yvelines nous coûte 20 000 euros. Quand on voit bien, alors qu'il n'y a que 4 courses. Alors le coureur en plus, 15 jours avant, il faut qu'il sache où il va courir.
Oui.
Et ensuite, par coureur, 5,50 euros pour courir. Alors attendez, c'est pas fini. Il suffit qu'il soit malade, il suffit qu'il soit blessé.
Il suffit. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein.
Ah, non seulement les 5,50 sont encaissés par la fédération, mais il paye une pénalité.
Ah, c'est ça, parce qu'il a été malade.
Oui.
Est-ce que le club peut payer pour lui les pénalités? Est-ce que s'il prévient suffisamment, bon.
Mais le club, s'il en a les moyens, pourquoi pas. Ouais. Mais quel club aujourd'hui a des moyens justement pour pouvoir déjà engager gratuitement les coureurs, ensuite prendre en charge des déplacements, etc. Très peu de clubs aujourd'hui sont à ce niveau-là.
Alors, vous avez quand même trois fédérations, Michel, avec lesquelles vous travaillez maintenant. Hein. Jadis, c'était trois fédérations complètement différentes, qui ne se connaissaient pas. Et puis, la crise du sport cycliste vous a obligé à travailler ensemble.
Nous travaillons ensemble. Enfin, ensemble, nous côtoyons, il n'y a pas de souci. Et je crois que pour que le coureur puisse courir, il faut absolument, aujourd'hui, qu'il fasse partie des trois fédérations. Que ce soit la FFC, l'UFOLEP ou la FFGT.
C'est-à-dire qu'il prend une licence, il est affilié aux trois fédérations, ou il paye un supplément?
Chaque fédération offre sa licence.
D'accord.
Alors, s'il n'y a pas beaucoup de courses, effectivement, c'est intéressant pour qu'ils puissent prendre une fédération, une licence affinitaire, hein, tout à fait.
D'accord. Mais le club, lui, s'affilie à une fédération ou il peut
aussi... plusieurs.
À plusieurs.
À plusieurs.
D'accord.
Oui,
ok.
Oui.
Et la particularité de ces fédérations, c'est l'UFOLEP et puis la FFGT, c'est ça?
Oui,
hein,
tout à fait.
C'est quoi la différence par rapport à la FFC?
La grosse différence, c'est qu'en fin de compte, le coût des organisations est beaucoup moindre. Ça va de 1 à 10.
C'est ça qui est fou, parce que, bon, il y a les mêmes contraintes. Je veux dire, il faut bloquer les routes, il faut demander les arrêtés préfectoraux, il faut de la police, il faut des soins.
Sur le côté sécurité, c'est exactement pareil. Ouais, que ce soit la fédération, les trois fédérations se doivent d'accorder quand même une grande sécurité. Maintenant, ce sont justement, il n'y a pas de droit. Les droits sont complètement différents. Le coureur s'engage quand il veut. Au moment qu'il veut, et ça c'est une liberté qu'aujourd'hui le cycliste est en droit d'attendre.
D'accord, c'est-à-dire qu'on peut décider le matin même de venir participer à telle ou telle épreuve.
Tout à fait, et c'est ce que essaye de faire la fédération à travers le sport pour tous.
Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de voir demain des courses à 200, 300, 400 coureurs et être débordé par des problèmes de sécurité? Si par exemple il y avait...
je voudrais bien avoir des lignes de départ. Non, pas davantage, sauf que la fédération nous...
On ne peut pas limiter quand même
La fédération nous limite. Hein.
Ouais,
hein, c'est à 180, on n'a pas le droit. Les premières courses de l'année 2007 à Mousseau, que nous avons organisées, ils étaient 180 pratiquement à chaque. Mais ce n'est pas le nombre. Mais je vous assure que des courses à 180, vous en avez 3 dans l'année, pas plus. Parce que justement, il n'y a plus beaucoup de coureurs.
C'est ça. Donc, ils payent apparemment des prix d'engagement dérisoires dans ces fédérations-là. Et c'est ce qui fait la différence par rapport au...
Et le coût des organisations. Le coût des organisations. Avec 300 ou 400 euros, pratiquement, une course UFOLEP peut être organisée.
Et les distances sont plus courtes ou ce sont les mêmes?
Ce sont à peu près les mêmes.
Ouais, donc, l'occupation des routes, c'est le même moment. Quoi.
Voilà, tout à fait. La grosse différence, c'est qu'ils n'ont pas les titres de champions départementaux, régionaux, nationaux. Reconnus par les grandes instances, c'est tout.
Et sur le plan, de la qualité cycliste, sur le plan de l'exploit sportif, c'est le même, quoi. C'est le même niveau. Il n'y a pas une dévalorisation de ces courses.
Les moyennes de ces courses-là sont peut-être un peu légères, mais il se trouve aussi que dans ces courses-là, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Donc, et la FFC, on vient maintenant de plus en plus à des courses sans prix. Parce que justement, on ne peut pas aligner, 1500 euros pour organiser une course. Et je dis bien une course de minime ou de cadet ou de troisième ou quatrième catégorie. Hein. Mm-hmm. Je ne parle pas des deuxièmes et des premières.
Hein. Mm. Oui, parce que, bon, on va rappeler pour le grand public, quand on organise une course, d'abord, il faut bloquer les routes. Il faut demander une autorisation préfectorale. Souvent, c'est plus facile de bloquer au petit matin les routes qu'en plein après-midi. Hein.
Bah, déjà,
surtout l'été. Hein,
la préfecture, par exemple, pour une course en ligne, quand on dit une course en ligne, c'est par exemple Paris-Annette, hein, le départ est d'un côté, l'arrivée de l'autre, elle ne peut pas partir après 8h le matin. Ça, c'est une instance
pourquoi
ministérielle.
Pour le marché, parce que les gens se déplacent sur la route, vont être bloqués.
Parce que l'île de France se situe justement dans les grands départs, les grands retours, donc il faut que toute course soit terminée avant midi.
D'accord. Et il faut l'autorisation de chaque maire des communes traversées. S'il y a un maire qui refuse, on dévie, on change de parcours.
Ça nous est arrivé plusieurs fois. Hein. Mais ça m'est arrivé aussi que lors d'une course, d'une étape du Tour des Yvelines, il y a un maire qui ne voulait absolument pas nous laisser passer. Et nous n'avions aucune possibilité de faire une déviation. D'accord. Il a fallu faire intervenir, parce que c'est une course officielle, le secrétariat général de la préfecture qui est passé au-dessus de maire pour nous donner l'autorisation de passage.
D'accord. Ok.
Mais bon, c'est tout à fait exceptionnel.
Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les arrêtés préfectoraux. Hein. Donc on bloque les routes. Après, on fait venir donc la police. On fait venir aussi donc la Croix-Rouge. Ça coûte de l'argent, quoi.
Ah ben la police ne vient plus sur nos courses.
Ils viennent plus.
Ah non, plus du tout.
Eh ben, en plus.
Ah plus du tout. Ouais. La gendarmerie, nous étions encore le Tour des Yvelines avec la présence de la gendarmerie il y a deux ans. Là depuis, nous l'avons plus. Tout dépend c'est des instructions ministérielles. Ils partent du principe que les autorités sont prévues pour faire autre chose que la sécurité des courses cyclistes.
D'accord, ok. Donc c'est vous qui êtes responsable, quoi.
Complètement.
Ce sont les bénévoles qui gardent les carrefours, qui...
Des groupes de cyclistes.
Ah oui.
Nous essayons de trouver des groupes de cyclistes. Ce sont des garçons qui sont bénévoles. Ouais,
c'est pareil pour les semi-marathons. Hein,
c'est énorme aussi quand vous vous trouvez à un carrefour et quand vous avez de plus en plus d'automobilistes qui ne veulent pas intempérer.
Oui, parce que ça arrive souvent, ça aussi, des fois.
Oh là là.
Il y a des automobilistes qui veulent passer outre.
De toute façon, je crois qu'ils sont dans leur voiture et puis qu'il y ait des vélos ou qu'il n'y en ait pas, il faut qu'ils passent.
D'accord, ça c'est un énorme problème. Donc là, mais s'ils passent et tout, ils enfreignent la loi quand même. Ils sont susceptibles d'être.
Ben oui, mais une fois qu'ils ont
pénalisé, verbalisé.
Le problème, verbalisé par qui déjà? Donc il faut aller porter plainte.
Oui, il faut aller porter plainte. Sortir la plaque d'immatriculation. Après, bon. C'est
mais s'il y a forcément un danger. Mais s'il y a des pelotons et c'est arrivé dans les Yvelines où vous avez 5-6 et pas loin d'ici d'ailleurs, je crois que c'est du côté du Perret en Yvelines.
Oh,
il y a eu une voiture qui est rentrée dans le peloton et il y avait 10 personnes par terre. Donc c'est quand même énorme. Hein.
Ouais, donc ça, naturellement, ça peut dissuader des parents d'inscrire leurs enfants dans les courses. D'autant plus que quand ils partent s'entraîner, il y a aussi le problème avec les automobilistes.
Hein. Les parents et les organisateurs également. Donc de moins en moins de clubs s'engagent dans l'organisation des courses. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, les parents nous disent tout de suite avant de partir, est-ce que vous allez sur les routes, quelle route vous allez prendre, etc., etc.
Parce que quand on fait du vélo et de la compétition, il y a quand même un code de la route à devoir respecter, hein, obligatoirement. Hein.
Bien sûr, mais les automobilistes aussi. Partout on voit partager la route, moi je veux bien qu'on la partage, mais quand on partage, on est au moins à deux.
Qu'est-ce que vous répondez, Michel? Certains disent, oui, mais les cyclistes, des fois, ils prennent un peu toute la route dans les entraînements. Vous qui êtes dans le milieu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que des fois, vous dites, c'est vrai qu'ils sont un peu gonflés pour éviter le vent, pour la bordure, ils pourraient quand même être un peu plus à droite?
On peut pas Non, tu as raison. On peut pas toujours tirer sur l'automobiliste. Et c'est vrai que les cyclistes ont droit de rouler l'un à côté de l'autre, donc à deux maximum sur la chaussée, à condition de pas embêter non plus les cyclistes. Et là, nous allons l'avoir dans deux mois, pratiquement au mois de janvier, où dans toute la vallée de Chevreuse, tous les pelotons vont reprendre l'entraînement. Et c'est vrai que quand je me mets à la place d'un automobiliste qui se trouve derrière un peloton à 30-40 coureurs, et ils sont en train de tailler la bavette, c'est pas marrant, comment dire.
Pour tous ceux qui nous écoutent par la bande FM et par Internet, alors un peu de sagesse, des deux côtés, ça sera très bien.
Oui, je crois. Et je disais tout à l'heure, une route, ça se partage, ça se partage à deux.
Alors, ça fait combien de temps qu'il avait ton
question? Là, l'unité Levallois, la route, là, ils ont attaqué le
cyclocross. Il y en a un peu moins en raison justement de la vogue du VTT.
Beaucoup moins. Eh beaucoup oui. moins. Le seul cyclocross dans les Yvelines a été c'est organisé le 14 ou le 15 octobre à Bois d'Arcy. C'est le seul qui existera au niveau de la FFC. Je sais qu'il y en a un autre, je crois que c'est ce week-end ou bientôt, là, avec Gambay et puis Bois d'Arcy.
Oui, parce que les cyclocross, c'est pareil. Il faut des arrêtés aussi pour pouvoir occuper donc les.
L'ONF ne veut plus nous laisser passer. C'est ça le souci. Et c'est que bon, c'est pas forcément l'adepte du cyclisme VTT ou cyclocross, mais il y a aussi tout le public hein, qui rentre dans les bois et parfois qui peut gêner la faune et la flore. Hein.
Alors que font les coureurs quand c'est l'intersaison? Est-ce qu'ils déconnectent complètement? Ils vont faire un peu la fête histoire d'oublier les heures et des heures de sel? Ou alors est-ce qu'ils font aussi en parallèle d'autres activités sportive, ou est-ce que maintenant on ne fait plus que du vélo, même l'hiver pendant la trêve hivernale?
Ben, tout dépend l'âge, hein. Tout dépend l'âge du pratiquant. C'est vrai qu'on essaye tout ce qui est cadet, minime cadet, junior, de leur faire un autre sport, la piscine, un petit peu de marche à pied, de course à pied, d'athlétisme. Ouais. Mais sans ça, il faut qu'ils continuent le sport.
Ouais, c'est fini cette époque où les coureurs coupaient 2 mois et demi en plein hiver, voilà, parce que c'était dur. Hein.
Quand on sait que déjà au 1er novembre, il y en a qui vont commencer à reprendre la compétition.
Oui, parce que les entraînements de club reprennent non plus le 1er janvier, mais dès le 1er décembre.
1er décembre ou 1er novembre, ça dépend du niveau des coureurs qu'il y a dans le club.
Donc on a des intersaisons de plus en plus courtes, quoi. Comme dans tous les sports. Hein.
Tout à fait, d'autant plus qu'ils vont reprendre la saison, je parle pour les seniors, le 2 mars, avec pour certains déjà 5000 km dans les jambes.
C'est
d'entraînement.
Pas trop tôt quand même, parce que même le 2 mars, il peut y avoir un peu de givre encore.
Le souci, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement dans la compétition, je vois ceux qui sont pratiquement en 3e catégorie, ils vont faire un début de saison assez tonitruant pendant 3 mois, et après ils vont couper. Carrément en plein. Alors qu'avant,
jusqu'au bout. Hein.
Ah oui, tout à fait. Ils ont pratiquement 45 jours de course.
Il y avait même des coureurs qui volontairement arrivaient en forme en avril-mai pour pouvoir ensuite être bien dans ces belles courses d'été. Hein.
Beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins.
Pourquoi? C'est parce qu'il y a aussi moins d'organisation l'été. Les vacances d'été, juillet-août, c'est plus difficile, donc on préfère se concentrer sur le début de saison.
Mais oui, et puis, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est que pour aller faire une course, il faut faire 50 km ou 100 km aller-retour. Ben, on ne peut pas faire ça quand même tous les dimanches.
Alors de plus en plus, Michel, on fusionne entre les villages, entre les villes, à l'image nous de Poigny-Rambouillet hein, qui a fusionné. De plus en plus, c'est la fusion, comme dans tous les sports. Hein. Le foot, c'est pareil pour les petits villages. Là, c'est pareil pour le vélo. On fusionne, c'est l'avenir de votre sport?
Je ne crois pas. Maintenant, la fusion peut être perçue de deux façons. Effectivement, il y a deux clubs où il manque de dirigeants.
Bah oui.
Effectivement, là nécessaire, c'est nécessaire pour que le club continue. Mais sans ça, maintenant, aujourd'hui, on a encore deux entités de clubs, mais qui travaillent ensemble. Parce que chaque club veut garder ses subventions communales ou de la communauté de communes. Mais maintenant, ils travaillent ensemble pour pouvoir organiser, parce qu'un club, financièrement, ne peut pas y arriver.
C'est très bon
parce que deux clubs peuvent se dire moi je prends l'école de vélo jusqu'à cadet et au-delà à partir de junior tu prends les juniors et les seniors. Et je pense que ça peut fonctionner comme ça.
Les clubs phares qui sont dans les Yvelines, ce sont lesquels?
On parle souvent Poigny-Rambouillet, hein, fonctionne bien. Il y a Bois d'Arcy, il y a Conflans, il y a Maul. Maul qui est descendu un petit peu, il a repris davantage de VTT que de routiers. Pour les routiers, oui, on a cela. Château, peut-être que j'en oublie, hein, je suis désolé.
Donc les clubs qui aujourd'hui, enfin les jeunes qui aujourd'hui veulent s'inscrire dans des clubs, veulent braver toutes les difficultés, à quel âge peuvent-ils commencer à prendre une licence? 8 ans, 9 ans, ils accueillent déjà dans les écoles de vélo?
La FFC vous dira qu'à partir de 4 ans.
4 ans
peut, tout à fait.
Ouais.
Mais sans ça, l'école de vélo recommence réellement à 6 ans pratiquement. Alors c'est très dur parce que lorsque vous avez un enfant qui commence à 6 ans et qui veut, en tant que senior, ça fait que pendant 10 à 12 ans, il va faire du vélo et sans beaucoup d'évolution en fin de compte.
Oui, parce que les premières courses, c'est quoi? Minime, cadet?
C'est l'école de vélo, donc les benjamins, les pupilles, mais les vraies courses, effectivement, c'est minime. minime première année, minime deuxième année, cadet, cadet 1, cadet 2, junior 1, junior 2.
C'est combien de kilomètres ? 30, 40 kilomètres ?
Un minime fait 30 kilomètres, ouais. Le cadet va jusqu'à 80 kilomètres, et les juniors font la distance des seniors.
C'est bon de commencer très tôt, parce que il y avait une époque, un moment où les anciens disaient c'est pas un sport qu'il faut commencer très tôt le vélo. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé ?
Pas beaucoup. C'est dommage parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus, à l'instar de la Belgique, hein, où pratiquement les coureurs réellement commencent la compétition à 16-17 ans et pas avant. Ouais. Mais pourquoi pas, mais quand on regarde, on a fait des statistiques, hein, sur les enfants qui avaient commencé très très tôt, il y en avait pratiquement 10% qu'on retrouvait simplement à partir de junior. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils étaient lassés avant.
Ouais, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est que d'abord, il faut s'entraîner, il faut faire des kilomètres. Beaucoup font des kilomètres astronomiques à un âge très avancé. Et après, il y a une certaine lassitude qui vient se greffer. Hein.
Ben, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, la fédération, une fois de plus, a voulu faire la championnite. Hein. Moi, j'appelle ça comme ça. En école de vélo, il y a quelques années, l'école de vélo, je ne la nommerai pas, en Ile-de-France, hein, les enfants de 6-7 ans se promenaient avec leur maillot de champion de France. Donc malheureusement, je crois que ça, au niveau motivation, il y avait beaucoup de soucis. Hein.
Et puis entre nous, il n'y a pas les parents un peu qui poussent, parce que c'est comme dans tous les sports, il y a des parents qui veulent s'identifier aussi à leurs enfants. Hein.
Ça existe, mais justement, ça demande beaucoup de possibilités aux parents de pouvoir les accompagner partout et dans tous les temps.
Et puis il y a aussi des jeunes qui n'ont pas encore, au niveau de la croissance, hein, qui n'ont pas encore atteint leur croissance optimale, il faut pousser des braquets, c'est quand même un effort cardiaque important le vélo. Hein.
C'est bien pour ça, et là je rejoins la fédération, que tous les clubs doivent absolument se doter d'entraîneurs, de dirigeants diplômés qui peuvent justement limiter la progression des enfants. Et je pense que, et c'est vrai que l'enfant par lui-même a la fonction de compétition, il veut toujours se surpasser et être meilleur que l'autre. Et je crois que pour justement limiter, comme tu disais, la croissance, il faut absolument donner des points d'accueil.
Et justement, dans les clubs, on prend de plus en plus des gens diplômés ou malheureusement, ce sont uniquement des bénévoles, des gens qui sont de bonne foi mais qui ne sont pas forcément
pas toujours évident, parce que qui dit diplômé dit un certain nombre d'heures de disponibilité. Là, actuellement, nous avons un stage de formation qui se termine ce soir, d'ailleurs, de brevet fédéral premier degré, où nous avons 16 dirigeants qui sont inscrits. Donc ce sont des futurs diplômés qui repartiront dans leur club justement pour pouvoir faire l'éducation des enfants.
Oui, parce qu'il faut dire que quand on est donc dirigeant de vélo, on est sur la brèche, allez, du mois de janvier au mois d'octobre-novembre, pratiquement.
Même plus. 1er janvier, 31 décembre.
Ah ouais, d'accord. Ah
bah oui, parce que
l'hiver, quand il n'y a pas de course, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les sorties d'entraînement ? On s'occupe de quoi ? Les cyclocross, tout ça ?
Mais les parents comptent justement sur les diplômés pour pouvoir les accueillir ensemble et faire autre chose, justement. Et je pense que l'autre chose ça peut être du jeu de ballon, ça peut être... Mais en fin de compte, il y a l'esprit d'équipe qui doit être derrière. Et je crois que les parents aujourd'hui, comme dans tous les sports, comptent sur les diplômés des clubs.
Il y a des périodes de mutation, de transfert, là,
oui,
en pleine saison,
sûr.
Là, c'est maintenant, là
La fédération est très stricte là-dessus. Hein. Les transferts, on appelle ça les mutations, ça va être à partir du 15 novembre, et ça va s'arrêter le 1er décembre, donc pendant 15 jours. Donc on a le droit, effectivement, tout le restant de l'année, mais avec une pénalité financière.
En plus.
Ah oui,
si on change de club, on n'a pas le droit.
Ah, oui, on a le droit si on paye.
Ouais. Alors ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on gagne de l'argent dans les courses cyclistes ? Est-ce qu'il y a des prix payés par le club ? Il y a des sponsors qui payent ? Est-ce qu'on gagne un peu d'argent pour rembourser un peu ses frais ?
Si un cycliste était riche, je crois que ça se saurait.
Ouais.
Et je crois qu'il y aurait là il y aurait beaucoup de monde au portillon. Non, pas du tout. Une course, d'abord, comme je disais, il y a beaucoup de courses aujourd'hui qui sont organisées sans prix parce que l'organisateur ne peut pas rajouter des prix pour les coureurs. Alors il se trouve que de temps en temps, on a beaucoup moins aussi de primes qui sont données, rappelle-toi, il y a 10-15 ans pratiquement, dans une course cycliste, il y avait la prime du spectateur, la prime
de ceci. Il y avait les commerçants qui donnaient.
Bien sûr, mais il y a de moins en moins de commerçants, et puis d'un côté, les courses se situant de moins en moins au centre-ville, donc il y a de moins en moins de primes.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donc il y a le prix d'une licence et d'une cotisation, c'est de combien pour un éventuel pratiquant?
Grosso modo,
tout dépend de la catégorie, ouais. Mais ça, il y a une fourchette entre 30 euros et 150 euros.
D'accord. Alors après, il y a le coût du vélo. C'est pas quand même.
Il y a la cotisation. Il y a la cotisation au club.
En plus, il y a la licence.
Mais oui, parce que le club, lui, est tenu de donner des vêtements.
Oui, d'accord.
Donc les vêtements de club, oui, parce que dans les courses, pour faire des prix d'équipe, il faut que les coureurs portent le même maillot. Mm-hmm. Donc ça veut dire aussi des prix vestimentaires, des coûts vestimentaires très, très importants également. Mm-hmm. Il y a le vélo, alors de temps en temps, le club, lorsqu'ils peuvent se permettre, ils payent certaines réparations, parce que les crevaisons, ça existe quand même, mm-hmm. toujours. Ils n'ont pas encore fait le pneu plein, hein, mais bon, pourquoi pas. D'un côté, ça coûte très très cher.
Mais le vélo est à la charge du pratiquant, il peut avoir même plusieurs vélos dans une saison.
Oui, oui, oui. Alors, il y a des clubs aussi qui, vis-à-vis de l'école de vélo, ont trouvé un petit système de louer des vélos aux parents. Parce que moi, je l'ai fait en tant que parent également. Pendant un an, on ne sait pas si l'enfant va se plaire à mmh. faire du vélo. Mmh. Donc, c'est quand même un vélo aujourd'hui, c'est entre 1500 et 2500 euros. Tout dépend de la qualité. Malheureusement, aujourd'hui, l'enfant veut le vélo qui est le meilleur sur le marché et le plus beau du voisin. Mmh. Donc, est-ce que l'enfant va continuer à faire du vélo pendant toute la saison? Donc, le club, il peut louer ou prêter des vélos qui leur sont prêtés toute la saison, et l'année d'après, dans ces cas-là, puisqu'on ne peut pas, ils ne prêtent pas deux années de suite, hein, c'est les parents qui font l'achat.
Alors, on casse du matériel, et ça aussi, le matériel est à la charge du pratiquant. Qu'est-ce qu'on casse? On casse des roues, on casse des boyaux ou des pneus, des demi-pneus maintenant, hein.
Des roues,
on sait remplacer les boyaux.
Il y a des roues, oui, il y a des roues qu'on peut casser, notamment. Mais les routes sont quand même de plus en plus belles, si j'ose dire. Mm-hmm. Mais ça n'empêche pas que c'est surtout les chutes en peloton. Mm-hmm. Les enfants ont beaucoup de mal encore à courir en peloton, et même les grands. Hein. Pratiquement toutes les grandes courses, il y a toujours des chutes. Quand on voit les moyennes que veulent atteindre les coureurs. Donc il y a ce qu'on appelle les manettes de vitesse, il y a le dérailleur, il y a les roues, effectivement, il y a et parfois les cadres aussi.
Alors ça coûte cher, ça prend du temps, hein, parce que donc on l'a dit, les parents doivent aussi partir faire des kilomètres pour faire des courses, et puis il faut beaucoup s'entraîner. Combien de kilomètres on fait en moyenne par semaine avant la compétition? Alors ça dépend aussi.
Un minime fait deux sorties pratiquement. Ouais. Un minime fait deux sorties s'ils veulent vraiment arriver à un certain niveau de la compétition. Un cadet en fait deux aussi, et on arrive à junior à trois sorties, et les seniors en font parfois quatre lorsqu'ils le peuvent, hein, parce que beaucoup, quand on parle d'amateurs, ça veut dire aussi qu'il y en a qui travaillent ou qui sont étudiants.
Donc, heureusement, parce qu'il paraît qu'il y a encore des amateurs marrons, bidons, dans le vélo. Il paraît qu'il y en a qui ne travaillent plus déjà très, très jeunes, très tôt.
Pas beaucoup.
Ça existe, ça a
toujours existé, je crois que ça existera toujours. Il y en a qui quittent l'école à 16 ans pour pouvoir se consacrer au vélo. C'est une utopie complète. Mais ça, c'est la charge des parents, quand même. Mm-hmm.
Et puis, il y a quand même une chose qui est aberrante. On en parlait, Michel, hors antenne. Il y en a qui freinent volontairement pour ne pas gagner des courses, pour pas monter dans la catégorie supérieure, parce que ils n'ont plus le temps de s'entraîner ou ils ne veulent plus faire du vélo à plus haut niveau, quoi.
Ça, c'est nos soucis.
Il faut ces courses, quoi.
Avec la fédération, c'est nos soucis avec la fédération. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à comprendre que si c'est de la compétition, ça veut dire que le premier qui passe la ligne doit être déclaré vainqueur, et c'est le plus fort. Aujourd'hui, c'est le vainqueur. Il a le bouquet, il a la coupe, mais c'est pas forcément le plus fort.
Ouais, c'est-à-dire qu'il fait pas volontairement le sprint, il va être un peu en dedans.
Mais oui, parce que il existe un classement national depuis quelques années, et au classement national, ensuite, il y a un certain nombre de pourcentages où les coureurs sont classés par région. Mmh. Ça veut dire que un garçon qui n'a pas gagné du tout de course dans l'année peut se retrouver dans la catégorie supérieure.
Ah, d'accord.
Donc, qui dit catégorie supérieure veut dire davantage d'entraînement pour pouvoir courir vraiment, pour ne pas toujours être le dernier. Comment peux-tu ensuite courir toute l'année si tu es toujours dernier? Donc il y en a qui vont faire les primes, parce qu'il y en a quand même un peu, et puis freiner pour ne pas être classé dans les 10, dans les 20 premiers. Mais ça, tout le monde le sait, tout le monde ferme les yeux, et je crois que la fédération n'a pas trouvé justement de meilleur. J'étais hier au banquet de l'Amicale du cyclisme avec des anciens. Quand on dit des anciens, c'était Roger Labbé-Bille qui était l'invité d'honneur, 91 ans cette année. Et à cette époque-là, donc c'est vrai que ça, on parle de vieillard, hein, mais d'un côté, bon, c'était, tout le monde se bagarrait pour pouvoir être devant et était surclassé que le coureur qui avait gagné des courses.
Quoi qu'on a l'exemple d'un coureur amateur, je crois qu'à combien de victoires Daniel Levaux là, combien de victoires il a, il a jamais, il est passé je crois pro une année.
Il doit avoir 500 victoires.
Ouais, 500 victoires.
Hein, il a failli passer pro, il a été malade.
Il a refusé.
Mais d'un côté, bon, c'est vrai qu'il a quand même
un âge mercien. Il gagne plus que certains coureurs cyclistes.
À pratiquement à 56 ou 57 ans, on ne peut pas le mettre non plus en train de courir avec Vauclair.
Oui, ouais. Mais il pouvait à un moment quand même passer professionnel. Et je crois qu'il refusait parce qu'il préférait cette situation-là. Quoi,
c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il se fait le plaisir puisque il participe au championnat d'Europe, championnat du monde, et il a gagné une Coupe du Monde en Autriche cette année. Donc c'est quand même un coureur de renom et un coureur qui encore, lui, il va pas freiner pour pouvoir être devant.
Alors Michel, il y a ces difficultés-là, on en a parlé, et il y a aussi naturellement le dopage, on en a beaucoup parlé. Vous avez des contrôles inopinés, même chez les amateurs, ou alors c'est encore très léger?
J'ai toujours demandé un contrôle antidopage sur le Tour des Yvelines. Ouais. Je l'ai obtenu à chaque fois que je l'ai eu. Il se trouve qu'il y a 3 ans, lors d'un contrôle, il y a eu quelqu'un qui a été pris positif sur le Tour des Yvelines. Je ne l'ai su que 7 mois après.
D'accord.
Et on ne m'a pas donné non plus... Je sais qu'il a été suspendu pendant quelques mois, mais moi, en tant qu'organisateur, on ne m'a pas du tout donné les éléments. Donc, et d'autant plus, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que pour demander un contrôle antidopage, il faut payer.
En plus.
C'est nous qui payons, c'est l'organisateur.
Ouais, donc c'est vraiment l'hypocrisie, quoi. Hein. La plus totale, quoi.
Je ne sais pas si c'est l'hypocrisie, mais je crois qu'il y a des choses encore à revoir.
Et alors, si on est pris en flagrant délit quand on est amateur, on est radié à vie, on est suspendu
Non, justement. Non, justement. Moi, ça me fait sourire quand j'entends des dopés qui, pendant 6 mois, pendant 2 ans, comme par hasard, ils ont 33, 35 ans, s'ils ont 2 ans, on ne les verra pas. Le problème, il n'est pas là du tout. Il y a certains sports... Et je suis bien placé pour le savoir, il y a certains sports où il est pris, il y a pas. Donc c'est vrai qu'il y a le droit de tout un chacun, naturellement, quand on a fait une faute, hein, mais il devrait avoir systématiquement. Pour nous, les pénalités ne sont pas assez fortes. Le minimum, je pense que c'est pas 6 mois, c'est 5 ans. Ouais. C'est 5 ans, et à la deuxième fois, c'est à vie. On entend, c'est pas logique ensuite qu'on puisse applaudir quelqu'un dont on sait que quelques années avant, et il a triché.
On peut vendre ses courses en amateur, ça arrive que bien sûr, justement, on freine un peu volontairement, on dise allez hop, je te laisse un palmarès, moi le mien il est fait, et puis voilà.
Alors ça c'était vrai il y a quelques années, il se trouve que dans les pelotons, les garçons qui sont devant sont de plus en plus jeunes, et là je crois que bon, il n'y a pas une question de vendre. À un certain niveau, en première catégorie, oui, ça existe encore.
Alors ça va servir de transition avec Olivier, naturellement la vitrine du vélo c'est encore le Tour de France.
Heureusement.
Ça reste quand même une fête populaire. Bon, c'est vrai qu'on a vécu 2 Tours de France un peu difficiles ces 2 dernières années. Vous, quelque part, ça vous interpelle?
Ça m'interpelle, et je crois que j'étais aussi à la présentation du Tour de France au Palais des Congrès, et je rejoins tout à fait les propos de Prudhomme ou de Patrice Clerc quand il dit plus jamais ça, et je crois quand il remercie l'ensemble du public français de les suivre, et je crois que c'est tout à fait vrai, le public reste encore là, malheureusement à chaque fois, et là je vais faire du franco-français, on trouve toujours des dopés parmi les pelotons étrangers.
Bien sûr. Alors, est-ce que la force du vélo, quand même, c'est de ne pas être précurseur, hein, avant tout le monde, et de dire, nous, on fait le ménage chez nous, c'est après aux autres de faire le ménage, les autres fédérations sportives?
On peut avoir cette réflexion-là, ça ne nous apportera pas grand-chose.
Oui.
À nous, cyclistes, je crois que c'est pas parce que le voisin le fait ou le fait pas, on a un truc tout à fait spécifique depuis 2 ans, c'est l'affaire Puerto. L'affaire Puerto, c'est une affaire espagnole, où pratiquement il y a eu un certain nombre de coureurs qui ont été pris, et il n'y a pas que des coureurs, tout le monde sait qu'il y a plusieurs sports, et à partir de là, on ne peut pas dire que c'est pas parce que le voisin le fait et nous on le fait davantage que ça changera quelque chose.
Et alors c'est ce qui explique que les Français n'aient pas gagné trop de courses cette année, hein, parce que quand on voit encore le bilan de la saison sur le plan international, peu de grandes courses gagnées par les Français. Les Italiens ont fait une fin de saison en trombe encore cette année avec Petacchi sur le Paris Tour, avec Cunego, avec donc Bettini, deux fois champion du monde.
On peut effectivement regarder intrinsèquement les résultats. Moi, ce qui m'intéresse davantage en tant que cycliste, c'est comment se déroule la route, ouais. la course. Toutes les étapes cette année, je dis bien toutes les étapes, ont été animées par des Français. Que ce soit Ritubel, que ce soit avec Sandy Cazard, avec même si c'est Quick-Step avec Vasseur, je suis désolé, mais il y a toujours eu des Français, que ce soit Bouygues, que ce soit ailleurs. Alors c'est vrai que peut-être qu'il manque quelque chose, il manque une confiance en soi, il manque le petit plus qui fait que on aura des Bernardino, etc. Mais on n'attend pas un seul coureur, et je crois que l'ensemble du public attend le vrai champion pour qu'on puisse être autour de lui. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que il y a des jeunes, la Française des Jeux fait un énorme travail de ce côté-là, et je crois qu'un jour ou l'autre, si c'est pas aujourd'hui, ouais, c'est
jour
demain.
Et puis le jour qu'il y aura à nouveau le grand champion français, il y a des jeunes qui vont se réidentifier à ce champion. Bon, là, pour l'instant, on n'a plus le coureur capable de gagner le Tour de France, comme on l'a eu avec Fignon, avec Kino, il y a une bonne vingtaine d'années, quoi.
Mais glorifions quand même notre Yvelinois, Sandy Cazard, qui a gagné superbement et qui a fait deuxième derrière Vasseur.
Eh bien justement, on avait commenté cette victoire en juillet dernier dans nos émissions sur le Tour de Sandy Cazard. Olivier, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors, on va repartir pour un Tour de France en 2008. On connaît déjà donc le tracé 2008, Olivier. Pour tout dire, on sera nous aussi encore présents sur ce Tour de France, parce que nous on fait partie des journalistes qui aimons le Tour de France et qui suivons le Tour de France. Comment se présente cette édition 2008 ?
Alors Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a annoncé le tracé ce jeudi 25 octobre à Paris. Donc c'est une édition bretonne, car le Tour de France va s'élancer de Brest pour ce 95e édition. Alors un grand départ de Bretagne. Alors vous savez, Philippe, que
c'est le fief du vélo, la Bretagne.
Alors les Tours de France qui s'élancent de la Terre d'Armorique ne déçoivent jamais en général. On peut se rappeler notamment de Coppi dans toute sa majesté en 52, ou encore Anquetil l'année de l'inoubliable Puy de Dôme face à Poulidor en 64, ou encore Merckx encore devant Poulidor en 74. Et on peut noter également Hinault en 85 pour un grand retour époustouflant, ou encore Indurain en 95, l'année de son 5e succès consécutif.
Ah, donc ça promet alors.
Alors c'est ça bien. Promet, pour éclairer un peu les auditeurs et les amoureux du vélo, j'ai retenu 10 points très importants à retenir pour cette 95e édition. Alors pour la première fois depuis 40 ans, il n'y aura pas de prologue. Arrivé en moyenne montagne dès le 6e jour à Superbès dans le Massif Central, donc on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Les Pyrénées seront gravies avant les Alpes cette année.
Ouais, tantôt ça diffère, tantôt c'est les Alpes, tantôt c'est les Pyrénées, chaque année ça diffère un peu.
Alors l'Italie sera le seul pays étranger traversé avec une arrivée inédite à Prato Nevoso, l'une des quatre arrivées au sommet de ce Tour de France. Alors on sait d'aventure que les autres années précédentes, le Tour de France passait par l'Espagne, on se rappelle également du départ de Londres l'année dernière. Donc cette année il n'y aura qu'un seul pays étranger traversé, il s'agira de l'Italie. Le col de la Bonnette, dans les Alpes, le plus haut d'un Tour de France qui sera gravi à 2800 mètres pour la quatrième fois de son histoire. C'est au sommet de l'Alpe d'Huez, avec les 21 lacets, que sera jugée la dernière étape de montagne, avec les franchissements des cols de la Croix de Fer et du Galibier, donc ça va être une sacrée étape, d'autant plus que c'est à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, donc cette étape pourra peut-être bouleverser un petit peu le classement général à ce moment-là. La distance des contre-la-montre sera réduite par rapport à 2007. Moins de haute montagne, mais plus de moyenne montagne. C'est-à-dire qu'il y aura moins de grands cols, moins d'arrivées en haute montagne, mais il y aura davantage, sera plus réparti sur la moyenne montagne.
C'est pour rendre la course plus nerveuse ?
Je pense que c'est pour rendre la course plus nerveuse, en effet. Alors, un seul transfert au matin de la dernière étape, entre Saint-Amand-Montrond et Étampes. Alors,
c'est pas très loin.
Il y aura une seule liaison. Ouais. Donc, ça permettra aux coureurs vraiment de rester sans cesse dans la course. Et puis, je crois que ça, c'est le point le plus important. C'est le dernier, l'instauration du passeport sanguin.
Ouais.
Prôné par le directeur, donc Christian Prudhomme, pour essayer d'avoir un cyclisme et un Tour de France 2008 qui soit le plus propre possible. On se rappelle l'année dernière des événements qu'il y avait eu avec notamment le Kazakh Alexandre Vinokourov et son équipe Astana qui ont été exclus du Tour de France. On se rappelle également de l'affaire Rasmussen qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et puis alors la victoire de Contador. Alors, va-t-il confirmer cette année pour ce Tour 2008? C'est la grande question. En tout cas, ça semble être un beau tracé, un beau Tour de France pour cette 95e édition.
Oui, et puis il n'y aura plus aussi de bonifications, Olivier. On a décidé de supprimer les bonifs pour les arrivées sur ce Tour de 2008. Hein.
Tout à fait.
Oui. Michel, vous en pensez quoi de ce tracé du Tour de France? Bon, chaque année, il faut quand même un peu innover. Hein.
Je laisserai aux professionnels le soin de le juger.
Vous, l'amoureux du vélo, l'amateur du vélo
Je crois que c'est un bon tour. Ouais. C'est un bon tour. Je crois qu'il faut faire confiance aux professionnels que sont Amaury Sport Organisation avec Christian Prudhomme. Il est tout à fait vrai que le fait d'enlever les bonifications font que des grosses équipes qui couraient pour Petacchi, Posato, Bounen, là je crois qu'ils vont avoir beaucoup de soucis parce que c'est ouvert. Mm-hmm. C'est ouvert et ils n'auront pas justement le petit matelas de seconde à la fin justement pour garder le maillot jaune là, après.
Il fallait rendre la course plus nerveuse. Bon, on sait que ce sont les coureurs qui font la course, de toute façon. On a beau concevoir et faire n'importe quel tracé, ce sont avant tout les coureurs qui font la course.
C'est tout à fait vrai, mais bon, d'un autre côté, je crois qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le fait de la volonté d'ASO, et justement, quand on parlait tout à l'heure ensemble, Philippe, avec les problèmes de la fédération, ASO, lui aussi, a des problèmes avec l'UCI. Mmh. Et je crois que on verra ce que ça donne, mais Christian Prudhomme a annoncé qu'il choisirait lui-même ses équipes au départ. Ce qui n'était pas le cas, et ça c'est très important dans le cyclisme. Mmh. Parce qu'avant, avec l'UCI, c'était un certain nombre d'équipes qui étaient classées au Pro Tour, dont le Tour de France était obligé de prendre. Mmh. Qui est des casseroles, moi j'appelle comme ça, qui est casseroles ou pas, ils étaient obligés de le prendre. Et c'est ce qui s'est passé avec Vinokourov. Enfin, mmh. C'est vrai qu'il avait un palmarès derrière lui, et c'est vrai que tout le monde le voyait comme futur vainqueur.
Mmh. Alors le passeport biologique, une bonne chose. Michel, bon, on a une semaine importante pour le vélo. Il y a eu cette présentation du Tour, hein, qui est toujours un moment attendu dans l'année avant que les coureurs ne partent en congé. Et puis, il y a eu quand même ces deux jours, lundi et mardi, à la Maison du Sport à Paris, qu'on connaît bien, hein, où on a planché un peu sur ce problème du dopage.
Je pense que c'est historique. Historique, hein, parce qu'en fin de compte, le passeport biologique va commencer dans le cyclisme. Il est prévu de l'étendre à tous les sports. Et je pense que là, c'est quand même important. Il faut quand même se rappeler aussi que le cyclisme avait fait beaucoup d'efforts, notamment avec la fameuse charte des coureurs que chacun devait signer pour pouvoir prendre le départ du Tour de France. Oui. Ça n'a pas empêché que certains l'ont signé et se sont trouvés dehors après. Mmh. Alors, espérons que le passeport biologique ne fasse pas les frais de ce qui s'est passé avec ça.
Et ceux qui sont pris la main dans le sac, comme on dit, faut carrément les escure, ben les radier, un Vinokourov par exemple, ou même un Flaglandis, hein, puisque, bon, on le sait, aujourd'hui c'est officiel, Pereiro a gagné le Tour de France 2006, mais bon, il a volé la victoire à Pereiro, quelque part, Landis.
Tout à fait, mais d'un autre côté, il faut savoir aussi ce qui avait été avant annoncé, c'est qu'un tricheur durant l'année, s'il se faisait prendre, devait donc être au moins écarté pendant 2 ans, et devait rendre un an de salaire.
Oui, ça me paraît logique.
Notre champion du monde ne l'a toujours pas signé, ça.
Oui.
Parce que justement, il ne voulait pas donner l'argent. Et je crois que s'il ne l'a pas signé, c'est qu'il s'est passé quelque chose.
Alors, Olivier, donc, bon, c'est peut-être trop tôt pour faire des pronostics, hein, sur ce Tour de France. On va rappeler que Contador avait gagné cette année, que Pereiro donc, s'est retrouvé donc, sur tapis vert, vainqueur pour 2006. On peut entrevoir, finalement, peut-être certains outsiders ou des surprises pour cette année. 2008.
Alors comme vous le dites, hein, c'est très difficile d'établir des pronostics.
Surtout que certains sont peut-être pas au départ.
Voilà, parce qu'on ne sait pas exactement les équipes qui vont être présentes au départ. Par exemple, je prends le cas de Rasmussen, vous savez qu'il n'a pas été pris la main dans le sac officiellement, mais il a été exclu de son équipe.
Avant qu'il soit pris la main dans le sac.
Il a été exclu de son équipe, donc pour l'instant il n'a pas d'équipe pour participer au Tour 2008. Donc c'est peu probable que Rasmussen soit présent sur le départ. Après, bon, c'est sûr que Contador pourrait confirmer, je pense que Contador a une bonne place. Je pense à Valverde aussi, qui l'année dernière n'a vraiment pas eu de chance, qui a eu quelques défaillances. Et puis la montagne aussi, la montagne qui pourrait être confirmée par le maillot à poids de l'année dernière. Alors je sais plus, j'ai plus son nom en tête.
Soler Hernandez.
Voilà, exactement, qui m'a fait forte impression. Et je pense qu'il pourrait rééditer également de belles performances l'année prochaine. Alors pour revenir sur le passeport sanguin, moi je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est surtout sur les analyses et sur les fourchettes des prélèvements qu'on arrive à voir s'il y a des anomalies ou pas. Et je pense que de prendre un coureur sur plusieurs mois, en prenant bien compte de ses entraînements, de ses courses officielles, de ses temps de repos, Je pense qu'on pourra vraiment avoir des fourchettes qui permettent de savoir s'il est dans les normes ou si justement il y a un problème quelque part. Mm-hmm. Donc je pense que le passeport sanguin, après comme disait le monsieur, faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit un peu prise à la légère avec des fraudes possibles. Mais si c'est respecté scrupuleusement, je pense que le passeport sanguin, c'est historique effectivement dans le cyclisme.
Mais il faut le faire chez les amateurs aussi, chez les tout jeunes. Michel, c'est possible, c'est à faire.
Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est très difficile. Et justement, comme monsieur disait, que ce sont des références biologiques de chaque coureur qui sont pris en début d'année. Il faut savoir que parmi les ados, il y a un changement énorme au niveau médical. Donc ça me paraît très difficile. Mm-hmm. Mais c'est bien déjà de le mettre en place.
Alors, sur ce tracé 2008, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'une nouvelle fois, la dernière étape du tour va partir d'Essonne. C'est vrai que l'Essonne a souvent été la ville hôte de la dernière étape du tour. Les Yvelines, il n'y a pas tant de départs que ça. Rambouillet, Saint-Arnoult, Saint-Quentin, on ne pourrait pas faire une étape. Versailles, on ne pourrait pas faire une étape sur le tour.
Ben, une fois de plus, j'ai pleuré.
Eh oui.
J'ai pleuré comme beaucoup d'Yvelinois, parce qu'il faut savoir que le Conseil général des Yvelines a posé une candidature. Mm-hmm. L'année dernière, donc en 2006, hein, quand il faut savoir que Patrice Clerc ou Christian Prudhomme, peu importe, un des dirigeants d'ASO, disait qu'il y avait 200 villes qui s'étaient portées candidates pour 2008, etc. Donc dans les 200 villes, il y a la ville de Versailles.
D'accord.
Mais alors quand elle pourra être désignée, et c'est vrai que ce sera une très grande fête hein, quand ce sera dans les Yvelines.
Oui, parce que vous aviez voulu, je crois, organiser un critérium d'après tour
professionnel.
Deux ans, trois ans, je crois.
Oui, oui.
Et puis ça s'est pas fait quoi. Il y a eu des refus.
Il y a eu un refus administratif complet.
Et pourquoi? Le motif c'était quoi? Invoqué c'était un départ de vacances.
Je crois que beaucoup vont rire. Au mois de juillet, fin juillet, c'était le plan Primevert.
Ah d'accord, c'était pas départ de.
On appelle ça comme ça.
Ouais.
Mais c'est vrai que, alors que nous avions tous les financements, la ville nous avait donné pratiquement carte blanche sur la grande avenue face au château. Tout était prévu, sauf que on a même essayé d'aller au ministère de l'Intérieur, et puis on n'a rien pu faire.
Donc c'est fini, quoi. Il n'y aura pas de critérium d'après-tour dans les Yvelines.
Après-tour, c'est sûr.
Sûr. D'accord. Ouais. Très bien. Alors ça coûte cher une étape du tour aussi. Hein. C'est peut-être là aussi le motif pour des villes comme Rambouillet, comme Saint-Arnoult, d'accueillir une dernière étape du tour.
Ben, j'ai vu que dans les journaux, dans vos collègues de la presse écrite, Étampes avait déboursé 50 000 euros. Mm-hmm. Il ne me semble pas que ce soit énorme pour une ville.
Très bien. À bon entendeur, salut, hein, Michel. Hein. Alors, il y aura par contre, ça c'est une bonne nouvelle, la confirmation du vélodrome sur 50. On n'a pas eu les Jeux en 2012, mais on aura le Vélodrome, ça c'est sûr, c'est un fait 2011. Hein, c'est ça.
Ce serait peut-être pas mal, justement, de faire coïncider le départ à Versailles. C'est vrai qu'il faudra encore attendre quelques années, mais si ça pouvait être l'année de l'ouverture du Vélodrome, effectivement, ce serait super, mais une super fête.
C'est prévu pour 2011 ?
2011, tout à fait. Ouais. On a lancé cette année, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin a lancé des appels d'offres pour les architectes. Et la fédération nous a demandé officiellement nos besoins locaux. Donc nous avons demandé une salle de bureau pour le comité départemental et en même temps une grande salle pour les réunions des clubs et de formation qui seront situées à l'intérieur du vélodrome.
D'accord. Et ça va être un véritable centre d'entraînement, un peu le Clairefontaine ou du foot ou le Marcoussis.
Tout à fait, parce que la fédération veut en mettre son pôle espoir de la piste. Nous-mêmes, au comité départemental, on va monter un club spécifique piste à Saint-Quentin, alors qu'actuellement autour il y a des clubs de BMX, de VTT, etc. Il y aura du VTT au niveau descente internationale, il y aura du BMX également, il y aura tout un ensemble, et quand on sait pratiquement, j'ai entendu parler que certains contrats de champs, de spectacles, ont déjà été signés. D'accord. Pour 2011.
Et il y aura peut-être des centres d'entraînement, d'équipes qui viendront préparer le début de saison dans ce centre aussi.
Tout à fait. Il y aura forcément des courses internationales avec, pourquoi pas, les Jeux Olympiques, mais beaucoup plus tard.
D'autant plus que la piste, là aussi, on en parle beaucoup moins. Il y avait Bercy, c'est terminé. il y avait l'Open des Nations qui s'est terminé. Il ne reste plus que les séjours de Grenoble.
Il reste encore le Grand Prix international de Saint-Denis, en Ile-de-France. Pratiquement, c'est la seule avec les championnats régionaux.
C'est plus dans l'air du temps aussi de faire de la piste. C'était une certaine époque du sport cycliste. Aujourd'hui, ça prend trop de temps pour un routier de se consacrer à la piste.
Peut-être, mais je pense qu'il suffit d'avoir des installations. On le voit, il suffit d'avoir des installations pour avoir des pratiquants. On n'a aucun vélodrome couvert sur toute l'Île-de-France. Nous avions Bercy auparavant, où il fallait tirer une partie de la piste. Ensuite, il fallait la rendre au spectacle. Là, ce ne sera pas le cas du tout, puisque ce sera une piste dure. Je pense qu'avec avec un équipement pareil, qui coûte quand même très cher, on devrait avoir un renouveau de la piste en Île-de-France.
Oui, et puis il n'y a que hier hein, pour la piste en France.
Il y a Bordeaux.
Oui, c'est vrai que Bordeaux marche.
Il y a Bordeaux.
Très bien. Et puis on ne bat plus le record du monde de l'heure, on s'y tente plus. Hein.
On n'entend plus beaucoup parler.
Mais bon. C'est plus dans l'air du temps. Hein. Très bien, merci en tout cas donc Michel, on reste avec vous pour la deuxième partie de cette émission. Olivier, on va rappeler les dates du Tour.
Alors, départ le 5 juillet 2008 de Brest, arrivé à Paris sur les Champs-Élysées le 27 juillet 2008.
Très bien, bah, on y sera, hein, on consacrera encore 3 semaines d'émission sur la route du Tour. Merci donc.
Alors, pour l'engagement des équipes, je pense qu'on en saura davantage l'année prochaine. Et je ne sais pas exactement quand est-ce que vont tomber les dates pour les équipes engagées, mais ce sera probablement quelques semaines ou quelques mois avant le départ officiel.
Très bien, allez, il est bientôt 10h, hein, nous sommes bien revenus à l'heure d'hiver. Il y a le carillon et puis la deuxième partie donc, de cette émission. Tribune Sport entre 10h et 11h, on y va.
Il est 10h, bon dimanche sur RVE.